Il y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
C'est assez la paix sociale et la liberté.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouin, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es estresa, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la
Vous êtes bien sur Langue de fronde et c'est notre émission de rentrée. Donc, certaines d'entre nous sont parties en vacances, d'autres pas. Et quand on s'est retrouvés pour essayer de savoir sur quoi on allait faire cette émission, après pas mal de bières et de se raconter nos vacances ou non-vacances, on s'est dit, allez, venez, on fait un truc sur la mer. Et nous, ce qui était parti comme un petit peu une blague est devenu une émission que vous allez voir assez bien fournie, en fait, et assez tentaculaire. Plutôt légère, en fait, même si on est assez consciente d'enjeux un peu plus sombres autour de la mer, comme bah, par exemple le fait que bah, des personnes s'y noient tous les jours seulement pour vouloir vivre décemment, le fait que la mer devient une poubelle, ou encore que c'est, qu'elle est au cœur en fait, d'enjeux géostratégiques assez multiples. Mais donc nous, on a décidé qu'on allait plutôt vous parler de trucs plus fun, de meufs pirates, de la sexualité des bestioles marines et du rapport qu'on entretient plus personnellement avec la mer. Et donc, nous sommes avec beaucoup de personnes qui vont dire leur nom au micro. Voilà, une bestiole marine qu'on appelle Po aussi parmi nous.
Chloé.
Salut, moi c'est Théo.
Moi c'est Guillemet.
Et alors, en technique, on a Cla et Léa et
Gab qui s'est,
s'est volatilisé quelque part et moi, Olga. Et maintenant, on va commencer par un petit tour autour de l'imaginaire, autour de la mer.
Et alors, qu'est-ce que ça nous évoque, la mer, comme ça, quand on s'en a fait notre premier tour de table pour les entretiens?
Moi, je sais pas, j'étais en bateau cet été avec mon cousin. Et à un moment donné, on a prononcé le mot lapin, qui est un mot interdit, et très vite, en mer, superstition de marin, et très vite, on en est venu à dire, enfin, il en est venu à nous dire, oui, mais les femmes aussi, c'est interdit à bord, normalement. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, bateau, encore, milieu de machos. Et donc après, je me suis dit, et moi, l'autre chose que ça m'évoque, c'est. Les femmes de marins quoi, qui attendent angoissées et seules leurs maris qui vont combattre la mer, qui vont affronter cette mer horrible. Et après, je me suis dit, oui, mais en vrai, je pense qu'elles ont peut-être même entretenu ce mythe-là, parce que ça devait être quand même hyper chouette d'être juste entre elles. Et donc, elles avaient quand même bien intérêt à dire « Oui, allez-y, on est seules et angoissées sans vous, mais partez loin. » Comme ça, elles se retrouvaient, elles devaient s'enjailler entre nanas. Et ça me plaît de me dire que c'était peut-être ça, la réalité. Et en vrai, en réalité, elles n'étaient pas si passives parce qu'elles bossent quand même pas mal avec leur mari, qu'ils soient pêcheurs ou marin, et en regardant un peu plus les infos, je me suis rendu compte qu'en 2008 seulement, il y avait une loi. C'est juste en 2008 que les femmes de marins qui travaillaient déjà avec leur mari de manière non professionnelle, enfin disons qu'elles n'étaient pas salariées d'une entreprise, mais si leur mari était un peu auto-entrepreneurs pêcheurs, et ben elles ont attendu 2008 pour avoir un statut de collaboratrice ou d'associée et pour avoir un petit pécule par rapport à ça. Mais que ce statut, il existe juste pour les couples mariés, donc union libre, ciao, quoi. Et seulement si le mari, enfin, ouais, seulement si le mari dépose le statut. Donc elle, elle n'a aucun moyen de dire, eh ben moi, en fait, j'ai droit à ce statut-là. Et ça, ça n'a toujours pas changé. Donc voilà. Donc en réalité, c'est quand même des nanas qui bossent. Et je crois que Chloé, elle va vous en parler un peu plus.
Ouais, moi pareil sur l'imaginaire que j'ai un peu autour de la mer, c'est surtout le travail invisible des femmes à terre, notamment dans tout ce qui est raccommodage des filets, etc., mais aussi conservation du poisson. À la fin du 19e, dans les salaisons et après, en fait, dans les conserveries. Et du coup, je voulais vous parler un peu d'une grève assez mythique de meufs à Douarnenez qui s'appelle en fait les peines sardines. Les peines sardines, c'est ça vient du breton. Du coup, peine, c'est la tête et sardine, donc c'est les têtes de sardines. Et ça renvoie aux coiffes qu'elles portaient pour aller travailler. Et du coup, elles ont fait une première grève en 1905 qui n'a pas eu trop d'écho. Et dans l'entre-deux-guerres, ça s'est... Les conserveries et la pêche plus intensive s'est développée. Du coup, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de conserveries sur Douarnenez, mais aussi dans d'autres villes et villages en Bretagne notamment. Et en 1920, il y a à peu près 2000 meufs qui travaillent à Douarnenez dans les conserveries. Et en 1924 et après un peu sur 25, il y a une grosse grève du coup des sardinières qui demandaient un meilleur salaire parce qu'en gros, pour vous donner une idée, elles étaient payées à 80 centimes de francs par heure, alors qu'une motte de beurre, ça coûtait à peu près 15 francs. Donc complètement sous-payées, très peu de reconnaissance du travail la nuit parce que du coup, vu qu'il n'y avait pas trop de frigo, etc., il fallait travailler en flux tendu en fonction de l'arrivage. Beaucoup de travail des enfants, enfin des filles, enfants qui travaillent aussi dans les usines et du coup pas de respect de législation sur le travail des enfants. Et du coup, en 1924, elles commencent une grève et c'est une grève qui va durer 6 semaines où en fait elles vont commencer par se mettre en grève et en fait les marins pêcheurs ils vont se joindre à elles parce que eux ils sont bloqués parce qu'ils pêchent mais il y a plus de transformation. Et du coup, ça va créer un gros mouvement et qui va aboutir à un meilleur salaire, un meilleur salaire et aussi surtout le paiement des heures supplémentaires et des heures de nuit. Et on va écouter un petit morceau là de Claude Michel qui s'appelle Les peines sardines, mais qui a été un morceau qui a été fait plus tardivement. C'est pas un morceau de cette époque. Par contre, je vais vous citer un petit extrait de texte de chanson qu'elle chantait, elle. C'est en français, mais à la base, c'était dit en breton, qui dit « Les femmes de Douarnenez chantent bien, elles ont la voix aiguë, elles ont la voix haute, l'humidité de la mer ne rouille pas leur voix. »
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
À 10 ou 12 ans sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. sardines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Du matin au soir, nettoie les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
À bout de fatigue pour pas s'endormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
À bout de fatigue, il faut pas dormir, elles chantent en cœur, il faut bien tenir.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Malgré leur travail, n'ont guère de salaire, et bien trop souvent vivent dans la misère.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Un jour tout ensemble ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Écoutez, elles brûlent leurs sabots, c'est la grève des sardinières.
Écoutez, elles brûlent leurs sabots, écoutez gronder leur colère.
Oh, bonjour, on est sur FPP 106.3 FM. Dans l'émission Langue de Fronde. Et donc, on venait d'entendre Chloé qui nous parlait des grèves des peines sardines, donc 1905, puis l'entre-deux-guerres. Mais on a vu aussi que c'était encore un problème, en tout cas, les conditions des ouvrières dans les usines de sardines, même s'il y a drastiquement moins d'usines de sardines. Ça reste quand même un souci, et en tout cas, des problèmes d'actualité.
Ouais, peut-être rapidement là-dessus. En fait, dans les usines de sardines, dans les conserveries, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque. Il y en a vraiment beaucoup moins. Mais on observe toujours un travail hyper genré dans ces usines, avec les mecs plutôt dans tout ce qui est technique, manutention et maintenance aussi des... Des machines, voilà. Et les femmes qui travaillent à la chaîne sur le contact direct avec le poisson, le travail qui est quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et ce travail qui est aussi fait souvent en 3-8, avec du coup alternance travail de nuit, le matin, l'après-midi, et dans un niveau sonore hyper élevé. Moi j'ai pu écouter des témoignages du coup de femmes qui parlent de ça, qu'en fait elles ont des migraines de fou parce qu'elles sont dans un brouhaha total et du coup des conditions de travail qui sont toujours pas évidentes aujourd'hui.
Voilà, alors on va passer un registre un peu plus fin, tourné vers l'imaginaire, encore quand même bien ancré dans le réel et peut-être avec un côté plus émancipateur. Quand nous, ça nous évoquait, qu'est-ce que nous évoquait la mer et les femmes, c'était aussi donc les femmes de la mer et les femmes pirates notamment. Et donc on vous a concocté quelques femmes qu'on connaît.
Juste peut-être un tout petit point sur le fait que là on était resté sur terre finalement. Donc effectivement on part sur les flots. Juste là, on va vous présenter finalement peut-être à une exception près, des femmes finalement qui sont issues de la bourgeoisie et qui ont l'opportunité finalement d'aller guerroyer sur les mers. Alors peut-être on peut commencer par toi.
Alors voilà, en fait, je pense que ce que tu voulais dire aussi, c'est que c'est les noms qu'on retient, mais que des femmes pirates, il y en a eu énormément. Il y en a aussi dont on n'a pas forcément de traces. Et il y en a depuis très longtemps. Il y en avait chez les Vikings au 5e siècle, il y en avait plein. Et au 16e siècle, il y en a une qui est assez stylée, qui s'appelle Saïda Alura, et donc qui était une des pirates les plus célèbres de l'histoire. Et bon, son nom, a priori, ça voudrait dire quelque chose comme noble dame, libre et indépendante, et femme souveraine, ne s'inclinant devant aucune autorité. Perso, je trouve ça stylé comme nom. Ça claque un petit peu. Et donc, elle règne sur les mers donc de 1515 à 1542. Et donc, elle est plutôt dans la Méditerranée occidentale. Donc, elle est marocaine. Et donc, elle est alliée à Barberousse, qui, lui, est plutôt sur les côtes orientales de la Méditerranée. Et en gros, elle bascule un peu dans la piraterie, parce qu'elle veut se venger de ce qu'elle appelle l'ennemi chrétien, et donc des Portugais et des Espagnols, plus précisément, qui ont chassé, en fait, enfin forcé sa famille en exil hors de Grenade. Et donc, elle était assez redoutée par ces Espagnols et ces Portugais. Voilà. Et puis, elle était assez stylée, badass.
Dans les plus connus de piratesses, si on peut dire. Donc, on a Anne Bonny, qui a été travestie, en fait, très tôt par son père, parce qu'elle provenait d'un... Enfin, c'était une bâtarde. Et du tout, qui a été travestie par son père, et en fait, qui a été au cours... cours d'un voyage, elle a abandonné son mari et elle a rejoint un pirate, et c'est comme ça qu'elle est devenue une piratesse. Et elle est devenue apparemment, en tout cas, très courageuse et un peu sanguinaire, faut le dire. Et voilà. Et elle est aussi connue pour avoir noué une amitié avec une autre piratesse qui s'appelle Mary Read. Voilà. Et donc elles ont un peu elles ont guerroyé.
Alors du coup, là, pour situer, on est au XVIIIe siècle dans la Caraïbe. Et du coup, pour moi, en tout cas, dans mon imaginaire, Anne Bonny et Mary Read, c'est vraiment deux icônes. Certains leur prêteraient une liaison. Je fais partie de ces personnes. Très clairement, en tout cas, c'est des figures qu'on peut se réapproprier. Et donc, la légende voudrait aussi que Mary Read, c'est sa mère qui l'habillait en homme dès son plus jeune âge. Parce que son frère étant décédé, elle voulait continuer à ce que la famille lui donne de l'argent. Donc très vite, elle a adopté le travestissement ou les codes de la masculinité. Elle s'est engagée dans l'armée britannique sous le nom de Mark Read. Et puis, elle rencontre à un moment donné donc Anne Bonny et Jack Rackham. Et donc, elle part faire la bringue avec eux. Et franchement, c'est des pirates quand même, des noms qui, moi, me font un petit peu vibrer. Et donc la légende voudrait que quand elle allait trancher la tête à quelqu'un, un pirate qu'elle venait d'affronter au combat, elle ouvrait son corsage et elle montrait ses seins pour que la personne sache que il allait se faire buter par une femme. Bon, c'est peut-être de l'ordre de la légende, mais ça reste stylé quand même, donc je pensais qu'on pouvait en parler.
Oui, complètement. Je crois que d'ailleurs que, en fait, avec Anne Bonny, Mary Read, elles ont genre sauvé un navire.
Elles étaient sur le Revenge, qui était le bateau de Jack Rackham. Et en fait, en 1720, il est abordé par les forces anglaises. Ils sont tous complètement bourrés. Et c'est les deux seules qui sont là et qui sont un peu en état pour sauver. Donc, malheureusement, elles se font prendre quand même, mais elles se battent vaillamment contre l'armée britannique, alors que les Cums sont tous à fond de cale, complètement rebous. Et d'ailleurs, elle les humilie après.
Et son mari, en fait, se fait pendre. Et qu'est-ce qu'elle dit, en fait, à son mari avant qu'il ne soit mis à l'échafaud? Elle lui dit « Si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas eu à mourir comme un chien. »
Et bim, dans ta face, Jack Rackham. Théo, tu voulais nous parler un peu plus du travestissement? Non, pas forcément.
Ben, rapidement, mais en fait, on était un petit peu... On est un petit peu déjà hors limite, alors c'était pour ça qu'on fera une émission spéciale pirate.
Juste si vous kiffez les pirates, regardez Black Sails et voilà.
Yo, 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 ho, ho, yo.
Rebonjour, on est sur Langue de Fronde 106.3 FM. On va parler maintenant d'un petit son.
Oui, c'est en parlant de personnes stylées, de meufs stylées, mais plus actuellement, y a des copines de Fréquence Furieuse de Saint-Julien-Molin-Molette et les Dégenrés de Grenoble qui ont fait une émission sur les femmes et la navigation. L'émission, elle se retrouve sur Radio Rageuse, elle s'appelle Les Écumeuses et on vous en propose un extrait.
Je sais pas, pour moi la mer, ça m'attire et à la fois ça me fait vraiment peur. Après il y a tout aussi le truc de la vie sur le bateau pendant plusieurs jours où t'es quand même serré, il y a toute une organisation qui se met en place, la nourriture. Ça a rien à voir en fait avec la vie sur terre. La vie en mer, déjà tu te lèves tôt, enfin tu te lèves un peu, en fait tu prends un rythme de sommeil qui n'a plus rien à voir, surtout quand tu fais des traversées parce que tu te relais à la barre, parce que tu fais des siestes de 2 heures, tu fais plus vraiment des vraies nuits. Je sais pas, on dit un peu là avec le bordel, on dit un peu qu'on est un peu le prolongement les unes des autres. C'est-à-dire qu'on s'habitue aussi vachement à se dire passe-moi ça, parce que tu peux pas toujours te lever pour aller chercher quelque chose sur un bateau, tu vois. Et du coup, on est un peu tout en ligne, tu vois, quand on est en train de s'organiser, tu vois, autour d'un repas ou mettre la table, sortir les trucs et tout. Tu vois, c'est des lignes où en fait on se passe les trucs. Bah, tu dépends des autres aussi. Ouais, on est un peu le prolongement des unes des autres, tu vois. Ouais, moi j'aime bien en fait le moment où on part de nuit, où on s'équipe, où tu sais, il y a un peu un stress, tu vois, parce que voilà, il faut s'accrocher au bateau, tu sais que t'es un peu, tu vois, dans un endroit où t'as pas la maîtrise en fait des éléments, quoi. Du coup, quand t'as des annonces de tempête ou de vent qui se lève, c'est un petit côté grisant. Par rapport aux autres types de bateaux, en vrai, le voilier, le premier truc qui est, je trouve, marquant, c'est le bruit. En fait, le moment où on se lance à la voile et où on arrête le moteur sur un voilier, c'est, tu vois, tu commences à entendre l'eau sur la coque, tu vois, les battements, tu vois, dans l'eau, tu t'entends le vent, tu le sens, enfin, il y a plein de sensations, en fait, qui naissent, alors qu'un gros bateau à moteur, on les voit, là, les mecs avec leur yacht, surtout dans les calanques de Marseille, tu vois, quand on part faire des petites sorties et tout, tu vois, ils arrivent avec leur gros yacht, et tu vois, ça résonne dans toute la calanque. Si t'es dans l'eau, t'entends le moteur, t'es là, t'as plus de poissons, tu vois. Et je sais pas, je crois que ça a été un peu un hasard qu'un jour j'ai entendu parler d'un bateau autogéré sur Marseille et de l'assaut de l'UNAPO. Et du coup, et direct, quand je me suis rapprochée de ça, il y avait déjà 2 meufs qui avaient construit ce projet-là, en fait, de faire un bordel et de naviguer en non-mixité. Et moi, ça m'a direct botté, tu vois, parce que je faisais déjà de la non-mixité. Voilà, enfin, il y avait vraiment plein de rapports, je trouvais hyper intéressants, tu vois, à avoir un bateau autogéré, à essayer de le rendre accessible pour tout le monde, et à essayer de déjouer un peu, tu vois, les normes. Apprendre à faire du bateau et que ce soit en vrai dans la vie, c'est des mecs, tu vois, qui te montrent, des marins qui font pas forcément attention à te faire faire les choses ou à te faire confiance sur les trucs. Et être plein de meufs sur un bateau, franchement, c'est génial. C'est une expérience que je peux pas, j'ai du mal à mettre des mots dessus, et bon, c'est compliqué pour un interview radio. Mais je sais pas, de suite, tu te sens vraiment, je sais pas, en plus, elles ont vraiment créé, je trouve, les skippeuses, c'est vraiment aussi une rencontre, les skippeuses du bordel, tu vois, parce qu'elles ont créé un truc où à la fois, elles nous apprennent, bah, parce qu'elles, elles savent et que nous, on sait moins, mais à la fois, elles ont trouvé, bah, c'est ce truc-là aussi de l'apprentissage entre meufs, où déjà, il y a la conception, en fait, que t'es pas la dernière des teubés et que si on te laisse faire, il y a vachement ce truc-là de faire aussi sur un bateau, tu vois, de faire toi-même, de faire les nœuds, les cordes, de tirer, de sentir, tu vois, quand t'es à la barre ou de sentir la voile. Mais tu vois, moi je le vois, je l'ai vu de suite en fait. À certains moments, on a croisé des gens qui étaient en galère. Et je sais que nous, alors je sais pas si c'est parce qu'on est un bateau de meufs et tout, mais on s'arrêtait vachement aussi, ou on était aussi sur un truc, même si c'est des trucs tout cons, à poser l'ancre, tu vois, à aider les autres. Et après, les réactions en face, c'est t'as des gars, tu vois, qui sortent et ils font un mouvement de va-et-vient comme ça avec la tête, tu vois, ils cherchent l'homme, quoi. Ils cherchent celui qui barre, tu vois, et ils le trouvent pas, quoi, en général. Du coup, c'est assez marrant. À la fois, on peut être un peu grande gueule, tu vois, avec les gens qu'on a en face, machin, et à la fois, tu vois, on est aussi un peu modeste sur le fait qu'on gère notre bateau, on s'entraide, et des fois, nous aussi, on a besoin d'aide, tu vois.
Vous êtes sur FPP 106.3 dans l'émission Langue de Fronde, et on écoute tout de suite la météo marine.
Beaufort 0. Mer calme, vitesse du vent moins d'un nœud, état de la mer, mer comme un miroir, effet à terre, la fumée monte droit. Beaufort 2, légère brise, nœud de 4 à 6, vaguelette courte, on sent le vent sur le visage.
Et tout de suite, dans cette émission sur la mer, on va s'intéresser à la sexualité des animaux marins.
Ouais, du coup, je voulais un peu vous parler de la sexualité des animaux marins, qui en fait est très surprenante et hyper, enfin pour moi en fait elle est hyper inconnue, c'est très vague, on ne sait pas trop comment les poissons, les crabes, tous ces animaux qui sont quand même un peu lointains de nous se reproduisent. Et du coup je vous ai un peu sélectionné deux petits exemples où les femelles ont un rôle un peu décalé de nos représentations. Notamment, d'abord, le premier, c'est la baudroie des abysses. C'est une grande famille de poissons. Il y en a environ 160 espèces. Et c'est des poissons qui vivent entre 300 et 5000 mètres de profondeur. Et en fait, la baudroie des abysses, elle est un peu chic et trash. Elle a une espèce de grosse gueule avec des dents hyper piquantes. Enfin, quelque chose qui fait quand même assez peur, enfin qui peut faire un peu peur. Et en même temps, certaines d'entre elles sont entourées de nuages de filaments lumineux qui font un peu paillettes disco au fond de la mer, quoi. Et ça, en fait, il y a ce style, c'est juste pour les femelles, parce que les mâles, au contraire, c'est des tout petits poissons qui, eux, ils n'ont pas le droit à la lumière. Donc, en fait, ils naviguent ils nagent dans la nuit totale. Et leur but, en fait, c'est de trouver la femelle qui, elle, est shiny, quoi. Et du coup, en fait, le mâle, quand il trouve la femelle, il va faire c'est assez surprenant. En fait, il va s'accrocher au ventre de la femelle. Et il va y rester. Et du coup, au début, les premiers océanographes qui ont un peu étudié ce poisson se demandaient pourquoi ils ne trouvaient jamais de mâles. Mais c'est qu'en fait, les mâles, ils pensaient que c'était des parasites. Mais en fait, c'est pas un parasite, c'est le mâle qui s'accroche au ventre de la femelle. Et il va, en fait, au fur et à mesure, perdre ses organes et devenir une espèce de boules de sperme accrochées au ventre de la femelle et en fait mourir, quoi. Enfin, et la reproduction après va se faire quand la femelle déclenchera l'éclatement de cette boule de sperme. Et quoi. L'autre petit exemple qui est un peu plus connu à ce qui paraît, c'est en fait les poissons clowns qui vivent. Du coup, c'est les poissons clowns, ils sont grave organisés. Ils vivent tous dans une anémone et c'est la femelle qui est dominante. Et du coup, la femelle, elle est un peu en couple avec un mâle plutôt dominant et beaucoup de poissons, beaucoup de plus petits poissons clowns qui ont pas un sexe super déterminé. C'est plutôt des mâles, mais ils utilisent pas du tout. Enfin, ils sont pas du tout dans la reproduction.
Ils se cherchent, quoi.
Ils se cherchent. Et en fait, quand la femelle meurt parce qu'elle est attaquée, soit parce qu'elle meurt de vieillesse, en fait, le mâle dominant va prendre sa place et du coup devenir femelle. Du coup, il va d'abord adopter un peu plutôt des codes sociaux et ensuite ses organes vont changer et du coup il va devenir femelle.
Ouais, et au niveau sexualité des animaux, il y a c'est clair, je pense que c'était Olga, mais c'est clair qu'il nous a parlé de Green Porno d'Isabella Rossellini qui nous fait part avec un petit des petits animations YouTube qui sont hyper drôles et je vous laisse en écouter une qui s'appelle Seduce Me Dolphin.
Is he seducing me? Anything goes. What am I, a dolphin? Dolphins engage in many affectionate and sexual activities. Leaping, chasing, playing, splashing. They disappear and reappear and dive in the depth of the sea. Stroking, caressing, nuzzling each other until they are ready to mate. Heterosexual couples mate in the missionary position. All alone, masturbating. What's this buzz? It's a genital buzz. It stimulates genitals with pulsed sound waves. Oh, oral sex. Oh, fin sex. Two females. Oh, a male. Two males. Oh, blowhole sex. Anything goes.
Et voilà, c'était le petit extrait que je voulais vous présenter. Alors, c'est en anglais, mais elle parle assez lentement, donc je trouve qu'on comprend un petit peu. Enfin, je suis un peu plus anglophone. Et en tout cas, où elle nous raconte avec des petites images et des dauphins en carton, en fait, que les dauphins, en fait, ils utilisent un peu tous les orifices et pour se stimuler, pour se donner du plaisir, qu'ils se caressent, qu'ils font des petits sauts, qu'ils utilisent leur nageoire pour rentrer dans le vagin de la femelle ou alors qu'ils utilisent le pénis et qu'ils rentrent dans l'évent. Donc l'évent, c'est le trou par lequel les dauphins vont respirer. Et voilà. Et en fait, on la voit manipuler ses petits cartons et elle-même faire partie de ces petites actions, enfin, de cette petite scène. Et c'est quand même assez hilarant. Et notamment, elle parle aussi du poisson des abysses que Chloé vient de vous parler. Elle nous parle aussi de l'hippocampe, qui notamment c'est le mâle. C'est assez drôle, elle nous montre que c'est le mâle qui en fait est enceint et qui porte les œufs. Et en fait, elle est un peu comme le kangourou, il a une petite poche. Puis la femelle, en fait, ils font une petite danse. Et quand il est séduit et quand ça marche bien, et ben, il ouvre sa petite poche et puis la femelle, elle vient déposer ses petits œufs. Enfin voilà, c'est assez mignon et c'est assez drôle.
On vous conseille vraiment toutes les vidéos de Green Porno d'Isabella Rossellini et petit big up à Edith aussi qui nous a fait découvrir ces vidéos.
Tout de suite, on va écouter donc la lecture de Les Vagues, Isabelle Simler. Des vagues. Seul, calme, tiède, mon corps s'allonge quand... Un poisson anguille pique le bout de mon orteil. Un poisson porc-épic me gratte la plante des pieds. Un poulpe à longs bras enlace ma cheville. Un poisson vache s'appuie sur mon genou. Des poissons pyjama se faufilent entre mes jambes. Un requin marteau longe mon ventre. Des girelles pend en cercle mon nombril. Des étoiles de mer s'étirent dans mes mains. Un poisson licorne cogne mon coude. Des crabes grimpent le long de mon bras. Une rascasse volante frôle mon épine dorsale. Des crevettes me chatouillent l'omoplate. On arrête là, peut-être ?
Comme tu veux, on pourrait t'écouter des heures nous parler de ce livre pour enfants qui n'a pas vraiment l'air d'être un livre pour enfants, si vous voulez mon avis, mais enfin bon. Enfin, les enfants ont aussi le droit à une sexualité.
C'est Guillemette qui nous a déniché tout ça. Elle nous a déniché aussi un petit livre pour enfants qui s'appelle Je suis la méduse, où on voit un petit peu. Enfin, c'est une histoire d'amitié entre une petite fille et une méduse, mais je vais surtout vous lire juste le début où on voit un peu la sensualité de la méduse. Je trouvais ça assez joli. Méduse, je suis. Méduse, mais. Toute petite méduse, je débute. Je balbutie mes premières danses dans les eaux délicieuses et salées. Allons un peu par là, et puis par ici maintenant. Je vogue, je flotte, mes vases dérivent, évitant de m'envaser. Je ricoche et j'effiloche mes froufrous au fil des flots. Je gonfle ma cloche, puis la rétracte. C'est ainsi que se meuvent les méduses. J'ébouriffe de temps en temps ma traîne de dentelle, et pourtant, j'ai si peu de volonté. Je profite des courants marins sans jamais penser à rien. Jamais, jamais, jamais. Voilà, je trouvais ça assez joli. Et ça va nous permettre de clore cette deuxième partie sur l'imaginaire et les animaux.
Petite dédicace à Lisa parce que c'est elle qui m'a fait découvrir ces autrices et qui m'a offert ces livres.
Beaufort 4, jolie brise. Vitesse du vent 11 à 16 nœuds. Moutons nombreux, le sable s'envole. Beaufort 7, grand frais, 22 à 27 nœuds. Des lames se forment, crêtes d'écume blanche, les fils électriques sifflent.
C'est là où on se jette à l'eau, nous, les animatrices ici autour de la table. Et on avait un peu envie de vous parler, enfin, on ne sait pas trop, mais on va voir, de vous parler un peu de nos peurs et de nos angoisses qui touchent à la mer. Notamment, moi, je me jette à l'eau, allez. Pour moi, là, j'ai un rapport un peu compliqué avec la mer. S'il est lointain, c'est pas plus mal. Je ne vais pas très souvent. J'ai appris à nager très tard. Et moi, quand on parle de la mer, c'est surtout vraiment des ambiances et des souvenirs de froid, quoi. J'ai froid quand je me mets à la mer. Il me faut toujours une demi-heure pour le passage de la ceinture. Quand je me rentre dans l'eau, ça fait hyper froid. J'arrive pas à mouiller mon ventre. Alors les seins, c'est encore pire. Et une fois que je suis dans l'eau, il faut que je nage parce qu'après, dès que je bouge pas, du coup, j'ai super froid. Et, voilà. Et quand j'en sors, c'est encore pire parce que du coup, il fait froid, 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 froid. Voilà, donc c'est pas très. Pour moi, c'est toujours une expérience un peu compliquée et c'est rarement très, très plaisant.
Moi, je sais qu'un souvenir. Moi, j'aime beaucoup la mer, donc j'ai pas tant de souvenirs terrifiants et d'angoisse, mais si, mes angoisses, c'était plus. J'ai commencé à faire de la plongée sous-marine à 8 ans, assez jeune. Et j'ai mis du temps à passer mes niveaux. Et avant ça, je me rappelle, j'avais cette angoisse avant de savoir vraiment maîtriser un peu la plongée sous-marine. C'était quand on commençait à aller dans la mer et que c'était un peu profond, et ben c'était complètement noir et on voyait pas du tout où on descendait. Heureusement, on avait la corde et je voyais le moniteur ou la monitrice qui était là et c'était la présence qui me rassurait. Mais j'avais une espèce de petite angoisse là, de la mer toute noire, quoi.
C'est aussi, je trouve, un rapport avec son corps, enfin que peut-être d'autres choses que la montagne nous fait peut-être pas autant. Enfin, c'est vraiment l'eau qui nous touche vraiment notre corps tout près. Et notamment, moi, je suis assez angoissée dans l'eau quand il y a juste des herbes qui me caressent. Ça me panique complètement. J'ai déjà eu une expérience comme ça où j'ai failli me noyer alors que c'était super joli. C'était en Corse et j'avais 80 cm d'eau. Et j'ai failli me noyer dans 80 cm d'eau parce que juste il y avait des herbes qui me chatouillaient le corps et ça m'a paniqué. Et l'amie, je lui disais de m'aider. Et en fait, elle ne me croyait pas. Elle trouvait ça tellement absurde. Elle ne comprenait pas que j'étais vraiment pas bien dans une situation vraiment pas agréable, quoi.
Moi, je poursuivrais sur le fait que, par exemple, la mer, pour moi, ça a souvent été un lieu d'angoisse, dans le sens où je vais imaginer, par exemple, qu'il y a un requin. Alors, évidemment, j'avais regardé Les Dents de la Mer, ça m'a pas du tout aidé, de films un peu terrifiants comme ça, où il y a un requin. Et je me souviens que, voilà, si j'étais loin du rivage, tout d'un coup apparaissait l'image d'un requin comme d'un prédateur, voilà, qu'on allait me croquer, me manger, m'aspirer dans les flots. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, là, dans le métro parisien, il y avait une espèce de campagne en fait, contre le harcèlement sexuel. Et en fait, c'était des images d'animaux. Alors, on peut parler de cette campagne. Enfin, ça ne sera pas le lieu de cette discussion, mais il y avait un requin, notamment.
Enfin, on l'aime pas, cette campagne.
Voilà, on l'aime pas trop. Voilà. Mais voilà. Et du coup, il y avait un requin, je crois, parmi les animaux dangereux et dont il faut se méfier. Donc, voilà, rapport aussi de la prédation. De ce corps quoi, qui aussi n'est rien dans cette immensité.
Moi, je n'avais pas besoin d'imaginer des bêtes un peu exotiques, parce que je pense que des requins mangeurs d'hommes, il n'y en a pas beaucoup sur nos côtes. Enfin, ça arrive peut-être.
Quelques squales, quand même.
Mais moi, je trouvais que la mer en soi, c'était fascinant. Je pouvais passer mes journées à la plage, mais en même temps, c'était hyper angoissant. Il y avait toujours... les parents qui disaient attention à la marée, quand tu es dans les rochers, tu risques de ne pas voir la mer monter, tu peux être encerclé, tout ça. Et c'est vrai que moi, je pouvais passer des journées entières dans les rochers à pêcher à pied. Et assez vite, j'ai eu cette conscience du danger. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment une conscience ou une inquiétude démesurée qui gâchait un petit peu le plaisir de passer des journées entières à faire de la pêche à pied. Et ma deuxième angoisse de mer, en faisant de la pêche à pied, c'était quand je passais les mains sous les rochers et que je touchais des choses gluantes, qu'en plus, des gens autour de moi appelaient des sangsues. Donc, ça n'arrangeait rien. Je crois que c'était juste des anémones de mer, mais c'était quand même très, très inquiétant. Et je me demandais vraiment qu'est-ce que j'étais en train de toucher.
Mais il ne t'est jamais rien arrivé.
Il ne m'est jamais rien arrivé.
On fait peut-être une petite pause musicale, histoire de se détendre un petit peu pour passer au... chose agréable.
Stéréo qui s'appelle Mar Locasien. Et donc maintenant on va vous parler de nos sensations mais un peu plus joyeuses qu'on a avec la mer.
Alors, moi, ça va aller vite. Hein. Toujours la grochonne. moi, le bout des pieds, j'aime bien. J'aime beaucoup. En fait, j'aime pas tellement être complètement immergée dans l'eau, mais c'est vrai que c'est très agréable. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes partagent. Ouais. Ce plaisir physique d'avoir les pieds dans l'eau, même l'eau glacée, je trouve ça très agréable. Et dans le sable, quand c'est du sable. Les galets, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend un peu des galets, etc. Mais c'est vraiment très agréable d'avoir cette eau qui nous passe sur les pieds et qui nous masse. C'est un très grand plaisir.
Ouais, ben moi clairement beaucoup plus loin que les pieds. Je crois que en fait me plonger dans la mer, c'est une des sensations qui me fait le plus de bien dans ma life. Enfin, de justement sentir que ton corps il est plus comme sur la terre et que tes cheveux, ils sont tous dispersés dans l'eau et que ouais, t'es complètement dans un autre monde. Moi, c'est des trucs qui me font trop, trop de bien en général. Et quand elle est hyper froide, je trouve que ça me fait encore plus de bien de sauter des rochers, de s'engouffrer dans l'eau, remonter, ressauter. Je trouve que c'est carrément enivrant et du coup, ça dépasse un peu les pieds dans l'eau.
Moi, en parlant de mer froide, je viens plus des mers chaudes, mais quand j'ai découvert les mers très froides, notamment les mers bretonnes, ce que je trouve génial, autant c'est le moment où tu te mets dedans et tu as quelque chose qui se passe dans ton corps de folie, mais alors ce que je préfère parmi tout, c'est quand on sort de l'eau. Et là, cette sensation, pour moi, elle est limite orgasmique, quoi. C'est vraiment quelque chose où, quand il fait pas trop froid dehors, hein, qu'il y a un petit vent, mais oh, cette sensation, elle est fabuleuse, quoi, vraiment.
Moi, ça n'a aucun rapport avec la température de l'eau. Mais quand j'étais petite, j'adorais la pêche à pied. Déjà, j'avais effectivement un goût pour le côté nourriture que ça pouvait avoir, et ça me passionnait de ramener des crabes et toutes sortes de trucs. Mais un de mes souvenirs assez marquants, c'est un jour où j'ai une cousine qui m'a dit « ferme les yeux et ouvre la bouche ». Et là, j'étais un peu inquiète. Et j'étais assez méfiante et je l'ai fait préciser qu'est-ce qu'allait se passer. Et en fait, elle m'a fait manger une crevette vivante. Et en fait, c'est délicieux. C'est un peu cruel parce qu'elle est vivante, mais c'est vraiment très, très bon. Et moi, j'étais un peu inquiète parce que j'avais quand même le souvenir de mes aventures de Marcel Pagnol avec une de ses voisines dans un mauvais film que j'avais vu enfant où elle le déguisait en chien et elle lui faisait manger une sauterelle vivante. Mais la crevette, en tout cas, c'est très bon.
Et ta cousine ne t'a pas déguisée en chien?
Non, elle ne m'avait pas déguisée en chien avant.
Et une des sensations de la mer aussi qui revient souvent, notamment sur un bateau, c'est le vent. Et donc on peut avoir un petit extrait de la météo marine, peut-être.
Beaufort 8, coup de vent. Vitesse du vent à 34-40. Lame moyenne plus allongée. On ne marche plus contre le vent. Beaufort 11, violente tempête. Nœud 56 à 63, mer complètement recouverte de bancs d'écume, chute de branches, risque qu'une personne puisse être projetée à terre. Beaufort 12, ouragan. 64 et plus, la mer est blanche, l'air plein d'écume et d'embrun.
Je vais vous lire maintenant un petit extrait d'une nouvelle que j'ai écrite qui se veut un peu être une fable écologique SF punk trash et qui essaye un peu quand même d'être porteuse d'espoir. Je vais vous lire le début, vous m'arrêterez quand ce sera le temps de m'arrêter. Sensation de l'eau sur ma peau, le vide en moi. Je laissais le silence infini de l'océan m'envahir, étouffant les bruits de lointains de la ville. Lorsque je n'eus plus assez d'air, je poussai sur mes bras, sentant le poids de l'eau sur mes muscles et remontai à la surface. Un grand bol d'air, ou du moins ce qu'il en restait. Les usines derrière les falaises crachaient leur fumée et je devinais presque, descendant le cours de l'eau qui sillonne la vallée pour se jeter dans la mer, les traînées de césium, uranium et autres trucs en yom venus depuis longtemps s'ajouter aux nitrates. Pas une âme à la ronde. Bien. Il ne s'agissait pas de rester barboté ici trop longtemps. Fallait être complètement fêlé, fauché et ne pas tenir sa vie en haute estime pour venir patauger dans le coin. Ça tombait bien, je remplissais tous les critères. Mais je devais bien payer le loyer et l'RTM. Et puis j'aimais la mer. À contre-cœur, je regagnais la rive.
Je m'empressais de sortir de ma combi, essorer mes cheveux incrustés d'algues minuscules qui pullulaient dans la baie, enfiler mon jean par-dessus ma culotte mouillée, ma veste sur mon débardeur tout aussi humide et récupérer mon respirateur, un hack de Mia pour les plongeurs solitaires qui ne tenaient pas trop à se faire repérer en achetant du matériel balisé. Une violente nausée me surprit. J'eus à peine le temps de me trouver un appui et cracher un grand jet verdâtre qui, par miracle, n'atterrit pas sur mes pieds. Purée, c'est pas vrai, ça recommence. Je croyais que les pilules de Mia suffiraient à calmer ces haut-le-cœur qui me prenaient de plus en plus souvent. Je repris quelques forces. Frac dirait sûrement que j'avais dû puiser les restants d'énergie au grand pin calciné qui me servait d'appui. Je gravis la pente sinueuse qui me séparait de la route, récupérai ma moto dans les bosquets et pris la direction de la ville. Je poussai enfin la porte du Margul, le seul rade de cette fichue ville dans lequel une fille comme moi, les cheveux et les vêtements mouillés et puis en l'algue à 5 heures du matin, ne risquait pas d'attirer les regards. J'avais trouvé ce bar un soir de blues il y a 5 ans. Je m'étais mis une sacrée mine, j'avais cassé quelques verres et la gueule à un connard qui faisait chier les serveuses. Ça avait fait sourire l'atelier et j'avais été à partir de ce jour acceptée dans la beute. Luroy, me lança Raphaël, la serveuse la plus hyperactive de la stratosphère et accessoirement mon amante occasionnelle. Comme d'habitude ? Sur quoi elle disparut dans les cuisines. J'échangeai un regard entendu avec la patronne qui se servait de son balai plus comme d'une canne qui l'empêchait de s'écrouler de fatigue que comme d'un artefact servant à nettoyer le sol et m'installer au fond du bar. Raphaël n'eut pas le temps de m'emmener ma bière et j'étais déjà aux chiottes libérant ce qui n'avait décidément pas l'intention de rester dans mes entrailles. J'agrippai l'évier situé non loin de la cuvette et m'auscultai dans le miroir sale. Les yeux d'un vert profond me regardaient, qui semblaient vaguement être les miens, sauf que je n'avais jamais eu les yeux verts.
Merci beaucoup, Olga, de nous avoir fait partager cette partie de ta vie. L'écriture d'une nouvelle, c'est quand même quelque chose. C'est beaucoup de temps, j'imagine.
On avait peut-être une petite annonce publicitaire à vous faire. Alors, ce message n'est pas vegan, on tient à le préciser.
Est-ce que vous connaissez un peu l'éponge menstruelle ? Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps que ça existait. C'est un peu une alternative au tampon et à la cup pour celles et ceux qui ne la tolèrent pas. Et ça vient de la mer. En France, notamment de la Méditerranée, c'est des éponges, en fait, qu'on est censé, pour préserver la mer, ne pas couper à la racine pour qu'elle puisse repousser. Et il paraît qu'on sent rien du tout avec, enfin qu'on peut, ah oui, qu'on peut la mettre pendant le moment où on fait l'amour, etc. Parce que on n'a pas besoin, enfin le sang il coule pas quoi. On n'est pas en train de dégueulasser nos draps ou d'en foutre partout. Après on peut vouloir en mettre partout aussi, hein, c'est pas un souci. Mais je sais que c'est beaucoup utilisé par des actrices porno ou par des travailleuses du sexe. C'est comme ça que moi j'ai connu, enfin que ma coloc Lila a connu les éponges menstruelles parce qu'elle regardait le site Perles de Clients. Et donc, elle s'est renseignée, et pas mal pour pas avoir de fuite, mais effectivement, pas vegan.
On peut bien tout avoir.
Il en existe des versions avec du pétrole, hein, si on préfère.
Ah oui, c'est vrai, il en existe des versions chimiques, et en plus, je crois que c'est cher et que c'est à usage unique. Mais voilà.
On vous dit à bientôt. On a adoré passer ce petit moment avec vous.
Dernière anecdote, sans. En fait, certaines espèces d'éponges changent également de sexe. Ce sont aussi des hermaphrodites qui ont la possibilité de changer de sexe. Donc voilà. C'est...
Merci Chloé, le reportage animal et marin.
Merci. Salut, au mois prochain.
Salut, à la prochaine.
Qui, mon père Tamisfanet et sa famille finissent d'arriver le matin à l'est. Il durait 4 à 6, pique-nique souriant au ouest. Vent sud-est revenant sur ses fesses à midi près du cap. Pour Fanette ce lundi, vent d'ouest récré 3 à 5, puis fraises et champs 5 à 6, mer joyeuse en fin d'après-midi. Pour Amber et Tamise, odeur forte, des pleurs, des cris 4 à 6 le soir, puis virant nord-ouest, mer calme devenant agitée 6 à 8, débordée par ses enfants, des averses, des rafales sur lit superposé, montée chromatique sur Ouessant, père à l'ouest malgré lui, venant lui prêter main forte, mollissant 3 à 5 cette nuit sur 7, revenant sud le matin.
Show me the way, slaves of the sea. Is there a swirl, an oyster pearl inside of me? Show me the way, why an x-ray? Right through my bones, is there a home where you can stay? Wi-Fi's and wells, wires and bells.